Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez frappant au Maroc. D'un côté, on a cette image d'un pays qui réussit sur la scène internationale, qui brille. On a tous en tête l'exploit en foot, bien sûr.
Oui, une image très positive à l'extérieur.
Exactement. Et de l'autre, les textes qu'on a analysés pour aujourd'hui, ils nous parlent d'autre chose. D'une tension sociale, d'une jeunesse un peu en colère, un malaise, quoi.
Un décalage, oui, c'est ça qui ressort beaucoup des publications dits débats du 9 octobre 2025 qu'on a consulté.
C'est ça. Donc notre objectif, c'est d'essayer de décrypter un peu tout ça ensemble, les thèmes forts qui reviennent, ce malaise justement, la mobilisation de cette fameuse Gen Z212, les critiques sur la façon dont le pays est géré, la place de la monarchie là-dedans, l'impact du numérique, et puis les pistes de solutions envisagées. On va essayer de démêler tout ça.
Une exploration nécessaire vu la complexité.
Et pour nous aider à y voir plus clair dans ces analyses, parfois très denses, votre regard d'expert sera essentiel pour comprendre les signaux importants et mettre en perspective ces différentes voies.
Volontiers. Ce qui frappe d'abord, c'est vrai, c'est la diversité des écrits. On a des éditos, des chroniques, des analyses d'experts, des tribunes, c'est très riche. Ça montre bien une société qui se pose beaucoup de questions sur son présent et sur son avenir.
Et un fil rouge, vous disiez?
Oui, un fil rouge très net, la crise de confiance. Elle revient partout, sous différentes formes. C'est vraiment le maître mot, j'ai l'impression.
Alors, commençons par ça, cette désillusion, cette colère un peu sourde, surtout chez les jeunes, que plusieurs auteurs décrivent bien. Mekaoui, Ben Chacroun,
Koukass aussi, oui.
oui, Koukass, avec des mots très, très durs envers le Premier ministre. Il l'accuse carrément de créer le désespoir comme institution. C'est fort, non?
Extrêmement fort. Et ça montre une certaine exaspération face aux services publics qui ne suivent pas, aux projets qui n'aboutissent pas, les promesses non tenues, quoi.
Et souvent, dans ces textes, on fait le lien avec un discours précis.
Ah oui, le discours royal de 2017. C'est une référence quasi systématique chez Mekaoui, chez Bousseta. Ils le relisent aujourd'hui comme une sorte d'avertissement, une mise en garde du roi Mohamed VI qui était déjà très lucide à l'époque sur l'irresponsabilité de certains politiques. Leur déconnexion.
Il pointait déjà ce risque que les citoyens se tournent vers le palais royal.
Exactement. Face à l'inaction des institutions classiques, le roi disait en substance: attention, si les élus ne font pas leur travail, les gens viendront directement vers moi. Et cette phrase clé, quand le bilan est décevant, on se retranche derrière le palais royal, elle résonne beaucoup aujourd'hui pour ces analystes.
D'accord. Et cette critique de la gouvernance, elle va plus loin, elle est détaillée.
Oui. Les critiques sont assez précises, on parle d'inaction, de médiocrité banalisée même, une tendance à beaucoup communiquer, peut-être au détriment des résultats concrets.
Dans quel domaine surtout?
Les secteurs clés sont souvent pointés du doigt, la santé, avec des descriptions assez dures d'hôpitaux délabrés, de manque de personnel.
L'éducation aussi, j'imagine.
L'éducation, oui, des écoles publiques vidées de sens, des réformes qui s'enchaînent sans vraie continuité, et puis bien sûr l'emploi des jeunes. Ce sentiment d'un marché du travail sans horizon. C'est ce qui amène Rachid Boufous à cette formule « bâtir l'humain avant la pierre ». C'est une question de priorité, en fait.
Oui, je vois. Ça me fait penser à cette réflexion d'Adnan Ben Chakrun sur l'art de savoir partir en politique.
C'est tout à fait lié. Ben Chakrun dit que le don politique le plus rare, c'est de savoir quand il faut quitter la scène, avec dignité avant d'y être forcé.
Forcé par quoi? La lassitude? Les réseaux sociaux?
Par la lassitude collective, dit-il, ou par l'ouragan des réseaux sociaux. C'est une réflexion intéressante dans ce contexte où on critique justement le manque de renouvellement ou la déconnexion de certains dirigeants. Savoir partir à temps, c'est aussi une forme de responsabilité.
Très juste. Alors, venons-en à ce phénomène dont tout le monde parle, la Gen Z 212. Qui sont-ils exactement d'après les sources?
Alors, les articles de Daouda, Ben Kiran, Bousseta, eux, ils convergent pas mal. C'est la génération née à peu près entre 1997 et 2012.
Les ultra connectés.
Voilà. Leur monde, c'est le numérique. TikTok, Instagram et surtout Discord, apparemment. Ils se mobilisent via ces canaux.
Et de manière anonyme, décentralisée.
Oui, ça semble être une caractéristique importante. Pas de leader identifié, pas de structure hiérarchique claire. Ce fameux serveur Discord Gen Z 212, qui aurait réuni jusqu'à 180 000 membres, c'est assez impressionnant comme capacité de mobilisation rapide et horizontale.
Et que demandent-ils principalement? C'est clair?
D'après ce que rapportent Ben Kiran ou Mikou, leurs revendications sont assez ciblées sur les services publics. Le slogan « des hôpitaux, pas des stades » a beaucoup marqué.
Oui.
Ils veulent une meilleure santé, une meilleure éducation. Ils dénoncent la corruption, le népotisme. Au fond, c'est une demande de dignité et d'une meilleure gouvernance, plus efficace, plus juste.
Et ils sont sortis dans la rue aussi.
Oui, ce n'est pas resté virtuel. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes, Rabat, Casablanca, Oujda, Agadir.
Et leur façon de faire, leurs méthodes, elles sont nouvelles?
Oui, c'est un point que Bousseta et Eid Belhassen analysent bien. L'utilisation des réseaux sociaux est très stratégique. Par exemple, choisir le week-end pour appeler à manifester, pour maximiser la mobilisation. Et puis, il y a cette méfiance affichée envers les partis, les syndicats. Ils ne veulent pas être récupérés.
Ils veulent rester indépendants.
C'est ça. Même si, apparemment, il y a des nuances au sein du mouvement sur les stratégies. Certains prônent le pacifisme absolu, la Silmia. D'autres actions ont été plutôt tendues, semble-t-il.
J'imagine que les regards portés sur eux sont très différents. Comment sont-ils perçus dans les textes médias?
Ah oui, c'est très partagé. D'un côté, on a des regards plutôt positifs. Aziza Benkiran, Najib Mikaou. Ils y voient un signe de vitalité, un engagement citoyen, l'expression légitime d'un malaise profond. Benkiran parle d'une jeunesse consciente qui veut changer les choses.
Et de l'autre côté, il y a des inquiétudes.
Oui, clairement. Aziz Bousseta, lui, met en garde contre les risques de dérive, de violence. Il parle de méchants casseurs, d'incidents qui créent un climat d'anxiété.
Il y a eu cette histoire d'appel à l'évacuation aussi.
Oui, à Casablanca et Tanger. Des appels qui se sont révélés être des fausses informations démenties par les autorités, mais qui ont ajouté à la confusion et à la tension ambiante. Ça montre à quel point la situation peut être volatile.
Aziz Daouda, lui, a une analyse plus psychologique, sociologique de leur démarche, notamment la lettre au roi.
C'est ça. Daouda analyse cette lettre sous plusieurs angles. Psychologiquement, il y voit une quête de reconnaissance, le fait de s'adresser directement au sommet de l'État.
Une façon de court-circuiter les autres hauts.
Oui. Et sociologiquement, c'est l'affirmation d'une identité de génération, très numérique et très critique vis-à-vis des institutions traditionnelles. Politiquement, c'est une contestation qui cherche une autre voie de représentation. C'est une lecture assez fine, je trouve.
Et il y a même des doutes sur l'organisation elle-même, sur qui est derrière.
Oui, des questions sont posées. Bousseta et Boufous s'interrogent, par exemple, sur la technicité, la rapidité de la mobilisation via Discord. Sans rien affirmer, l'idée d'une possible manipulation, voire d'une influence extérieure, est parfois évoquée. Ça reste une question en suspens dans le débat.
D'accord. Et face à tout ça, comment les autorités ont réagi? Et est-ce que ce mouvement a reçu des soutiens?
Alors, d'après Aïds Belhassen ou Ben Chayroun, la réponse a été plutôt sécuritaire. Interdiction de manifester, des arrestations, des dispersions. Mais ce qui est aussi souligné, c'est l'isolement relatif de Gen Z 212. Pas de soutien clair des partis politiques, ni des syndicats. Même Al-Adl Walikson, le mouvement islamiste, est resté très discret.
Ah oui, c'est intéressant ça.
Oui, ce silence a été noté, et cet isolement pose la question de la capacité du mouvement à durer, à s'élargir.
Cet isolement, ça nous ramène peut-être à cette fameuse crise de confiance dont vous parliez au début, un problème plus large.
Exactement. C'est le diagnostic de fond que posent El Ayan, Temsamani, Mikou. La confiance est vraiment abîmée. Pas seulement envers les politiques, mais aussi envers les corps intermédiaires.
C'est-à-dire ?
Mes partis politiques, les syndicats, la société civile. El Ayan utilise des mots assez forts en arabe. Il dit que les partis sont devenus des structures administratives rigides, que les syndicats ont perdu leur éclat, que la société civile est en recul. Ce vide, cette difficulté à faire le lien entre les citoyens et le pouvoir, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on voit émerger ces formes de protestation un peu différentes.
Et certains n'hésitent pas à critiquer le système politique lui-même, plus globalement.
Oui, Najib Mikou, par exemple, est très critique. Il parle de mascarade électorale en 2021, d'un parlement boiteux, d'un gouvernement affairiste. Il pointe du doigt l'impunité, les conflits d'intérêts, la corruption. Pour lui, ce sont des mots qui minent la démocratie de l'intérieur.
Et ça renforce cette image du Maroc à deux vitesses, non?
Tout à fait. C'est une idée qui revient souvent chez les analystes comme Rabah Boufous ou l'économiste Cherkaoui. Ils décrivent cette fracture entre, d'un côté, des indicateurs macroéconomiques parfois bons, une stabilité saluée à l'international, S&P par exemple.
Et de l'autre, le vécu des gens.
Voilà. Le ressenti quotidien d'une bonne partie de la population. La colère, le sentiment d'injustice, les inégalités sociales, territoriales. Cherkaoui a cette image très parlante. Le drapeau marocain flotte haut grâce au sport, mais à l'intérieur, les institutions seraient en désordre.
Et dans ce contexte, le Premier ministre actuel est directement visé dans certaines chroniques.
Oui, Rachid Boufous a une chronique particulièrement acerbe envers Aziz Achnouch. La comparaison avec Citizen Kane est assez...
Violente.
Oui. Il lui reproche une forme d'arrogance, peut-être liée à sa majorité absolue au Parlement, une déconnexion du terrain, une sorte de paranoïa du contrôle médiatique, et surtout, cette idée qu'il aurait géré le pays comme une entreprise. Ce qui, pour Bouffous, n'est pas du tout la même chose.
Et Bouffous utilise aussi cette analogie du moment Kodak. Qu'est-ce que ça veut dire ici?
C'est une image forte pour dire que l'establishment politique et institutionnel marocain risque de rater un tournant crucial. Comme Kodak, qui n'a pas vu venir le numérique. Bouffous suggère que cette élite est peut-être trop enfermée dans ses habitudes, qu'elle n'arrive pas à lire les changements profonds de la société, le numérique, la démographie, la culture, et qu'elle risque de devenir obsolète, dépassée par une réalité qu'elle n'a pas comprise. C'est une critique assez radicale de l'inertie du système.
Et au milieu de tout ça, il y a l'environnement numérique, les réseaux sociaux. Leur rôle est crucial, mais complexe.
Ah oui, très ambivalent. Azzedine Benani analyse ça très bien. D'un côté, ce sont des outils formidables de mobilisation, de créativité, on l'a vu avec Gen Z 212.
Mais de l'autre?
De l'autre, ce sont des vecteurs potentiels de manipulation, de confusion. Benani insiste sur cette différence énorme entre la donnée brute qui circule partout, très vite, et l'information interprétée, vérifiée, mise en contexte, et qui a parfois du mal à exister dans ce flot.
Il parle même d'une stratégie qui consisterait à inonder la zone.
Oui, il reprend ce terme anglais « flood the zone with shit ». L'idée, c'est de submerger l'espace public de messages contradictoires, souvent très émotionnels, pour désorienter les gens, pour qu'ils ne sachent plus quoi penser. Et l'écosystème numérique actuel, avec ses algorithmes qui favorisent l'émotion et l'engagement rapide, eh ben, il peut faciliter ce genre de saturation.
D'où l'importance de ce qu'il appelle la souveraineté cognitive.
Exactement. C'est notre capacité à trier, à analyser, à garder un esprit critique face à ce déluge d'infos. L'éducation aux médias devient absolument vitale dans ce contexte.
Et quand tout est confus, quand on ne comprend plus, la tentation du complot peut naître.
C'est ce que suggère Rachid Bouffous, oui. Quand il y a un fossé entre le discours officiel, qui se veut rassurant, et la réalité vécue, qui est difficile, quand les explications logiques manquent, l'idée d'un complot peut apparaître comme une explication.
Une façon de donner du sens.
Oui, une façon de donner du sens à ce qui paraît absurde ou injuste. L'idée qu'il y a des forces cachées, une manipulation, même si c'est illusoire, ça peut être une grille de lecture pour certains.
Et c'est là qu'intervient cette hypothèse d'une ingérence étrangère, d'une déstabilisation.
Oui, Bouffous analyse cette hypothèse, qui circule apparemment dans certains milieux. Attention, il ne dit pas que c'est vrai, hein. Il rapporte les arguments qui nourrissent cette thèse.
Quels arguments? Ah.
Par exemple, l'efficacité technique de la mobilisation Gen Z 212, jugée suspecte par certains. Le contexte géopolitique aussi. Le Maroc s'affirme, ça peut déranger. Des questions sur le financement, peut-être via les crypto-monnaies. Des relais possibles à l'étranger. Il cite le rappeur Al-Hakked, des réseaux liés à Al-Adl ou à Al-Eksan. Il mentionne même des ONG comme Open Society, USAID.
D'accord.
Mais il faut bien comprendre, Bouffous présente ça comme une grille de lecture qui existe, qui révèle surtout la méfiance ambiante, plus que comme une vérité établie. C'est important de le souligner.
Bien sûr. Alors, face à ce tableau quand même assez sombre, en tout cas complexe, est-ce que les articles d'e-débat proposent des pistes de solutions, des appels à l'action?
Oui, heureusement, il y a aussi des propositions. D'abord, beaucoup d'auteurs, comme Najib Mikou, appellent à réhabiliter le politique.
C'est-à-dire?
Pas juste voter.
Non, aller vers une démocratie plus réelle, basée sur la transparence, l'obligation de rendre des comptes, la fameuse redevabilité, une vraie lutte contre la corruption, contre ce qu'il appelle le capitalisme prédateur. Le but, c'est de reconstruire cette confiance perdue.
Et on retrouve cette idée de se recentrer sur l'humain. Oui, c'est l'autre grand axe. Le slogan de Bouffomousse, « Bâtir l'humain avant la pierre », le résume bien. Réorienter les priorités vers l'éducation, la santé, l'emploi, la dignité des gens. Moins de focus sur les infrastructures peut-être, et plus sur le développement humain. C'est un vrai changement de paradigme qui est suggéré.
Et concrètement, pour les services publics, il y a des idées. Pour la santé par exemple.
Oui, la Senadad propose des choses assez pratiques pour les hôpitaux. Mettre en place des systèmes pour écouter les patients, pour gérer leur retour. Des comités d'écoute, une hotline. Répondre vite via WhatsApp.
Pour améliorer les choses et calmer les frustrations?
C'est ça. Utiliser le feedback pour améliorer l'accès aux soins et en même temps canaliser le mécontentement avant qu'il ne déborde. Bien sûr, ça ne résout pas les problèmes de fond comme le manque de médecins ou de matériel. mais c'est une piste.
Et pour dialoguer avec cette jeunesse qui s'exprime différemment, quelles idées vont ?
Il y a deux propositions intéressantes qui ressortent. Celle de Khalid El-Gundi, créer un comité national de consultation de la jeunesse sous patronage royal qui irait vraiment sur le terrain écouter les jeunes. Et puis Mohamed Haït Belhassen rappelle qu'il existe une institution prévue par la Constitution 2011 mais jamais vraiment mise en place, le Conseil consultatif de la jeunesse.
Ah oui.
Il dit qu'il est temps de l'activer. Ça pourrait être une passerelle officielle, crédible, entre les jeunes et l'État.
Haït Belhassen, il a aussi des idées assez précises sur comment les partis politiques pourraient changer pour attirer les jeunes, non ?
Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit que faire un simple casting de jeunes, ça ne suffit pas. Il faut changer les méthodes de travail des partis.
Comme quoi, par exemple ?
Organiser des primaires ouvertes, limiter le nombre de mandats pour favoriser le renouvellement, mettre des quotas d'âge, mais aussi imaginer des co-secrétariats entre générations. Et surtout, il insiste sur la redevabilité, que les élus rendent des comptes clairs sur ce qu'ils font, avec des chiffres. Et utiliser le numérique pour écouter en permanence, pourquoi pas un Discord officiel pour un parti.
C'est une idée. Et un parti est cité comme pouvant jouer un rôle particulier de médiateur.
Oui, l'Istiklal est mentionné par Temsamani et la rédaction, à cause de son histoire, et aussi parce que son secrétaire général actuel, Nizar Baraka, a publiquement reconnu cette crise de confiance. Du coup, il pense que ce parti pourrait avoir une certaine légitimité pour essayer de renouer le dialogue avec la jeunesse.
Des ajustements économiques sont aussi proposés, j'imagine.
Oui, Aziz Rabah a une idée pour essayer d'aller vers un Maroc à vitesse unique. Il suggère de réorienter une partie de l'argent prévu pour de grands projets d'infrastructure.
Comment ?
En utilisant des montages financiers comme les partenariats public-privé, PPP, ou simplement en étalant les projets dans le temps. Et cet argent, le réinvestir dans les secteurs sociaux jugés prioritaires. La santé, l'éducation, l'eau, l'emploi. C'est une proposition de rééquilibrage budgétaire assez forte.
Et au-delà de toutes ces mesures, y a-t-il un appel plus général qui ressort ?
Oui, plusieurs voix, comme celle d'Adnan Benchayroun ou Bader Benalash, appellent au calme, au dialogue. Ils insistent sur l'importance de faire prévaloir la voix de la raison et de la logique. Comme on dit en arabe, de respecter les droits de chacun dans le cadre de la loi. Pour éviter la confrontation, l'escalade.
Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, cette exploration des textes d'Ideba nous montre vraiment un Maroc de contraste. Une image extérieure qui peut être très positive, dynamique.
Oui.
Mais à l'intérieur, une crise de confiance qui semble profonde, des fractures sociales, générationnelles qui sont bien là. Et tout ça est exacerbé par les défis de la gouvernance, par l'ère numérique. C'est complexe, hein ?
C'est exactement ça. La complexité est frappante. Et la question de fond qui traverse tous ces écrits, finalement, c'est peut-être 1. Comment le Maroc va-t-il faire pour reconnecter ses institutions, surtout politiques, avec la réalité vécue par ses citoyens, et en particulier par sa jeunesse ? Comment transformer ses revendications, qui s'expriment parfois dans la colère, parfois par des canaux inhabituels, comment les transformer en un moteur pour une réforme qui soit constructive et inclusive, qui n'oublie personne sur le bord de la route ?
Et pour finir, si on reprend cette image du moment Kodak, elle est assez provocante. Ces analyses nous laissent un peu avec cette question. Si le système politique marocain n'arrive pas, disons, à intégrer cette nouvelle photo du pays, s'il ne comprend pas vraiment et ne répond pas à cette génération qui parle différemment, qui attend autre chose, est-ce qu'il risque, comme Kodak en son temps, d'être dépassé par une réalité qu'il n'aurait pas su voir venir ?
C'est une question ouverte.
Oui. Et comme le dit Haït Belhassen, finalement, l'histoire ne jugera pas sur l'âge des acteurs politiques, mais sur leur capacité à délivrer, à obtenir des résultats concrets pour tout le monde. Voilà qui nous laisse matière à réfléchir.